le Seigneur, en ce début d'année, a vraiment placé sur mon cœur de vous prêcher donc sur un thème en particulier, mais je dirais aussi qu'il est tout particulier pour moi, personnellement, sur mon cœur. J'aimerais donc vraiment vous prêcher ce matin, et on va dire c'est une pré-introduction au thème, et vous prêcher sur ce que la Bible appelle, ce que la Bible nous enseigne, être baptisé du Saint-Esprit. C'est un terme que je n'ai pas inventé. C'est un terme qui n'existe même pas parce que, enfin, suite au grand réveil, on pourrait imaginer que suite au grand réveil que l'histoire nous raconte, que ce terme a soudainement existé. On a vu des choses extraordinaires durant, on pense à 1906, à ce grand réveil au Pays de Galles, on pense à plusieurs événements. Et on pourrait se dire, mais suite à tous ces événements, on a inventé ce terme être baptisé du Saint-Esprit. J'aimerais vraiment vous dire ce matin que c'est un terme que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et nous allons essayer de réfléchir un instant, vraiment, qu'est-ce que la Bible nous dit. Mais je vous dis rapidement, c'est juste une pré-introduction au thème. Et on va se placer devant Dieu et juste essayer de se laisser enseigner. J'ai ici le manuel divin, et j'espère que vous l'avez tous. Il nous est enseigné dans ce manuel divin que Dieu aimerait remplir du Saint-Esprit chacun de ses disciples, et il nous est enseigné donc qu'il existe pour chaque disciple de Jésus-Christ une expérience qui, en plus de la nouvelle naissance, est décrite comme un baptême, qui est donc le baptême du Saint-Esprit. Et donc c'est le titre de mon message, le baptême du Saint-Esprit, une promesse pour aujourd'hui. Une promesse pour aujourd'hui. Et juste avant, toujours en introduction à ce message, laissez-moi juste vous partager un peu ma prière pour l'Église de Réveil en 2016. Je suis dans ma dernière ligne droite avec vous, mais je prie encore, bien sûr, pour vous. Et je prie pour cette communauté, parce que mon cœur est encore là. Et je crois qu'il y sera encore un peu lorsque je partirai. Et je vous partage juste mon cœur, ma prière pour 2016, et que l'Église de Réveil soit une Église baptisée du Saint-Esprit. Ma prière est que chaque disciple de Jésus-Christ devienne un disciple rempli de l'Esprit. Ma prière est que chaque enfant de Dieu puisse découvrir pleinement toute la puissance et l'amour de Dieu pour sa vie. Ma prière pour 2016 est que l'Église de Réveil, en 2016, se laisse transformer intérieurement par la puissance de Dieu qui agit en elle, par aussi le biais du baptême du Saint-Esprit. Et à partir de là, ma prière est que l'Église de Réveil, alors qu'elle se laisse transformer à l'image de Jésus-Christ, puisse elle-même, par la puissance de Dieu, apporter une transformation autour d'elle et dans tout Genève. Et que l'Église de Réveil soit comme un phare. C'est une vision que Dieu m'a donnée depuis plusieurs années, que l'Église soit comme un phare qui va briller d'une lumière puissante, une lumière visible dans les ténèbres les plus noires, et que ceux et celles qui sont assis dans les ténèbres puissent encore aujourd'hui, en 2016, voir cette lumière et se lever à la suite de Jésus. J'aimerais vous dire ce matin que cela est possible si nous laissons toute la place au Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que cela est possible si nous acceptons de mourir à notre cœur charnel, si nous acceptons de laisser la présence du Saint-Esprit croître en nous et laisser notre cœur charnel diminuer jusqu'à disparaître, alors ce sera possible. Il y a un passage, alors que j'étais dans la prière, qui me fut donné, je suis toujours en introduction à ce message, et je voudrais vous le partager aussi, ce sera médité chez vous, dans Exode chapitre 13, slide suivant, au verset 21 et 22, voici ce qu'il est écrit, et je vous partage ça de manière prophétique pour l'année 2016. L'Éternel, Exode 13, 21-22, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. la colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et j'aimerais vous dire que le désir de Dieu est encore en 2016 d'être une nuée pendant le jour, mais aussi d'être une colonne de feu pendant la nuit. Dieu désire encore en 2016 te diriger quand tout va bien, quand c'est le jour, quand tu vois clair. Mais il veut encore être là quand il fait noir, quand c'est les ténèbres. Il veut encore briller et te conduire. L'Éternel veut te conduire dans chaque aspect de ta vie. Il veut être devant, il veut être derrière, il veut être à côté, il veut être en toi. Il veut encore te donner des instructions pour 2016. Il veut encore te délivrer de toutes tes maladies. Il veut encore te guérir des morsures, des serpents. Il veut encore te montrer comment entrer dans le pays promis. L'Éternel est une nuée qui va nous conduire et nous diriger. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Je vous prêche un message que j'aime beaucoup. Le Saint-Esprit, celui qui anime ma vie. Voilà le genre de Dieu, par son esprit, que Dieu aimerait être dans ta vie en 2016. Mais la question est, vas-tu accepter, comme ce peuple dans le désert, de te placer sous la nuée? Dieu veut te diriger, Dieu veut te conduire. Mais Dieu demande, est-ce que tu vas accepter de te soumettre? Nous savons que là où l'esprit, là est la liberté. Mais l'esprit va venir là où il y a un cœur soumis. Là où il y a un cœur qui se place sous la nuée. C'est pendant le jour, mais aussi pendant la nuit, alors qu'il fait noir, je vais encore me placer sous la nuée. Je vais encore faire confiance à Dieu même là. Amen. Ce matin, le but de mon message est double. Un premier but est tout simplement d'aider tous ceux qui n'ont pas encore reçu ce baptême du Saint-Esprit, de tout simplement peut-être vous aider à vraiment entrer dans cette dimension et à le recevoir. Et puis, j'aimerais aussi, deuxièmement, encourager tous ceux qui l'ont peut-être déjà reçu à continuer de persévérer et à laisser grandir ce baptême dans le Saint-Esprit, dans leur vie. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une fin en soi, mais le commencement de quelque chose. Le baptême du Saint-Esprit, j'aime utiliser cette image, n'est pas la montagne que tu grimpes. Et lorsque tu atteins le sommet, tu es heureux, tu es content, tu sautes, tu te réjouis un peu, mais après tu te prépares à la descente. C'est plutôt ce fleuve, Ézéchiel 47, dans lequel tu rentres, où tu vas de profondeur en profondeur, d'étape en étape. Et le grand but du baptême du Saint-Esprit, c'est de nous apprendre à nager dans la présence. Là où il n'y a plus pied, là où on doit faire totalement confiance à Dieu. Là où on est obligé d'avoir juste un but fixe, pas se poser 36 questions, de se concentrer sur le but et de nager. Mais je n'ai pas le temps de parler de ça. Je vous invite à ouvrir avec moi dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 4 et 5. Nous allons nous intéresser essentiellement à ces deux versets. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 5, donc Jésus dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cette première parole dans Actes des Apôtres, donc que nous trouvons verset 5, va nous aider à comprendre plusieurs petites choses sur ce qui est le baptême dans le Saint-Esprit. La première chose que ce verset nous enseigne, tout simplement, et je vais juste insister un peu sur ce point qui est extrêmement simple, mais la toute première chose que ce verset nous enseigne est que le baptême du Saint-Esprit existe bel et bien. La première chose que cela nous enseigne est qu'il existe bel et bien un baptême appelé baptême du Saint-Esprit. Vous serez baptisé du Saint-Esprit implique qu'il existe un baptême du Saint-Esprit. Et la première donc condition pour vivre ce baptême est de croire non seulement qu'il existe, qu'il a existé, mais qu'il existe encore aujourd'hui, qu'il existera encore en 2016 jusqu'à Jésus revienne, et que j'en ai besoin. Parce qu'il y a ceux qui ne croient pas qu'il existe comme je le crois, puis il y a ceux qui croient qu'il existe, mais qui ne croient pas qu'ils en ont besoin. Et nous devons croire qu'il existe, et qu'il existe encore pour moi aujourd'hui en 2016, mais que j'en ai aussi encore besoin pour 2016. Le principe est donc simple. Si nous voulons le vivre, nous devons le croire. Qui est la personne qui annonce ce baptême? Est-ce un disciple de Jésus? Non. D'après ma Bible, et la tienne, il est écrit que c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui parle. C'est lui qui annonce. Tu fais confiance à Jésus, n'est-ce pas? Alors fais confiance à sa parole. Jésus dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il est en train de dire, j'ai pour toi un baptême du Saint-Esprit. Et donc la toute première pensée qu'on retient ce matin est le baptême du Saint-Esprit est une promesse. C'est de cette manière que Jésus en parle et introduit le sujet parmi les disciples. Il dira au verset 4, en tout cas au verset 4 il est dit, il est écrit ceci, « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 49, Jésus dit, « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Cela nous amène donc à une première pensée très importante. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une option, une promesse de Dieu, et non pas une option. Aujourd'hui, on parle d'option dans différentes choses. Par exemple, si je veux acheter une nouvelle voiture et que j'ai suffisamment d'argent et que je veux me faire très plaisir, je vais, en plus de la voiture, y mettre des options. Aujourd'hui, les voitures sont déjà très bien équipées, déjà en première gamme, en entrée de gamme. Mais si on veut un peu plus d'options, hein, le siège chauffant, le siège électrique, ainsi de suite, et puis d'autres options encore et encore, une boîte automatique, je ne sais pas. Si on a l'argent, on va mettre l'option. Voilà, j'ai l'argent, je mets l'option. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de nécessaire. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement utile. Si je n'ai pas ces options, ma voiture va quand même rouler. Elle va quand même me conduire là où je veux y aller. Alors j'aurai peut-être plus de confort avec les options, certes, mais ce n'est pas forcément une question de vie ou de mort. Ce n'est pas forcément extrêmement nécessaire. On parle aussi d'options, par exemple, lorsqu'on veut louer une salle, par exemple. Actuellement, je suis en train de chercher à louer des salles pour notre prochaine convention des églises de réveil. Et j'ai réussi à contacter le théâtre de Beaulieu à Lausanne. Et puis la personne me répond et me dit, voulez-vous mettre une option sur la date? Oui, oui, je vais mettre une option. Ça bloque la date. Ça me permet donc de réfléchir. Ça ne m'engage pas vraiment, je n'ai encore rien signé, mais ça me permettra de réfléchir et de parler aux autres pasteurs. Est-ce que vous êtes prêts à mettre autant d'argent? Et ça me permet de juste réfléchir un temps. Mais c'est juste une option. Alors pourquoi je vous parle d'option? Parce que j'ai constaté personnellement que beaucoup d'enfants de Dieu ont une drôle de vision par rapport à la parole de Dieu, ont une drôle de vision par rapport aux promesses de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, mais la parole de Dieu est en option. Les promesses de Dieu sont en option. Je suis un enfant de Dieu, mais il est dit, tu seras saint. Parce que je suis saint, dit l'Éternel. Je mets ça en option. Seigneur, je crois que tu veux me bénir. Je crois que tu veux que je marche droit. C'est une promesse, Seigneur Jésus, si je marche droit, tu vas me bénir. Mais je mets ça en option. Seigneur, je crois que tu veux me guérir, mais je mets ça en option. Je vais y réfléchir un peu. Je bloque la promesse. Comment, avec une telle vision, pensez-vous vivre la puissance de Dieu? Jésus dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est une promesse. C'est la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'une promesse de Dieu? Moi, je définis une promesse de Dieu comme une parole que Dieu déclare en me donnant l'assurance qu'il va l'accomplir. D'après le dictionnaire, promettre, c'est s'engager par la parole ou par écrit à quelque chose. Donc lorsque les jeunes mariés disent, hein, le mari dit à sa femme, je te promets que je vais t'aimer, que je vais ci, je vais là et je vais souci. Et puis la femme dit, oui, je promets aussi de t'aimer, ainsi de suite. Elle s'engage, il s'engage à s'aimer, il s'engage à accomplir ce qu'ils disent. Mais le problème est que souvent, les hommes ne tiennent pas leurs promesses. Mais la différence, c'est que lorsque Dieu, lui, fait une promesse, il accomplit toujours. Parce que Dieu est vérité, parce que Dieu est fidélité, parce que Dieu est intégrité, Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il ne peut pas ne pas l'accomplir. Il est vérité, il est fidélité, il est intégrité. Donc lorsqu'il dit quelque chose, parce qu'il est vérité, parce qu'il est fidélité, parce qu'il est intégrité, il faut que ce qu'il dit s'accomplisse. Et donc c'est une bonne base pour moi, m'appuyer. Et lorsque donc Dieu dit, je veux te donner ce baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il veut le donner. Et donc, lorsque je m'approche de Dieu et que je prie, Seigneur, tu vois cette année 2016 qu'il y a devant moi? Seigneur, tu vois que j'ai énormément de défis devant moi. Seigneur, tu vois que j'ai besoin de force. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose de plus qui va m'aider à faire face à ceci et à cela. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Quand tu fais ce genre de prière, tu n'es pas en train de faire quelque chose de bizarre. Tu n'es pas en train d'agir comme un orgueilleux. Tu es tout simplement en train de demander à Dieu quelque chose qu'il a promis. Donc tu peux te présenter en 2016 devant Dieu et dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Équipe-moi de ton esprit pour que je puisse aller de l'avant et que je puisse faire la différence. Tu peux prier comme ça parce que Dieu l'a promis. Ok, maintenant il y a une deuxième chose que je trouve très intéressante dans cette parole de Jésus. Je trouve intéressant le fait que Jésus, pour introduire ce baptême, le compare précisément avec le baptême de Jean, et Jean le Baptiste. Et ce n'est pas un hasard. Alors pourquoi fait-il cela? Pour une raison simple. Jésus donc désire que ses disciples comprennent bien ce qu'il est en train de leur dire, qu'ils puissent bien comprendre ce qu'est ce baptême. Et donc, lorsque nous lisons ce verset 5, nous constatons que Jésus insiste sur le fait que ce baptême, que le baptême de Jean était un baptême d'eau, mais que eux, dans quelques jours, ils vont recevoir un baptême de l'Esprit. Alors que représentait le baptême de Jean? Le baptême de Jean était un baptême comme la plupart des baptêmes d'eau, un baptême symbolique, mais dans un sens particulier. Jean était, selon la parole du prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 3, « la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Il était aussi, d'après le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 23, le prophète qui devait venir avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Jean-Baptiste était donc pour le peuple le signe que Christ était sur le point d'apparaître. Et c'est Ésaïe qui nous dit ça, que alors qu'il crie, qu'il prépare le chemin, la Bible nous dit dans Ésaïe que c'est pour que la gloire de Dieu puisse apparaître. Et le baptême donc de Jean était donc un baptême symbolique, dans le sens qu'il rendait témoignage de la foi du peuple en l'apparition soudaine du Christ et des promesses de Dieu attachées à sa venue. Le but de ce baptême était de mettre le peuple dans les bonnes conditions en vue de la repentance, dans les bonnes conditions pour rencontrer le Messie et voir l'accomplissement des promesses de Dieu attachées à sa venue s'accomplir dans leur vie. Ce baptême était donc pour tous ceux et pour toutes celles qui avaient soif de voir, par exemple, la parole du prophète Jérémie s'accomplir, ou encore celle du prophète Ézéchiel que Ariel a lu dans Ézéchiel 36, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ce baptême était donc pour ceux, et peut-être sans le savoir, c'était pour ceux qui avaient soif de vivre la nouvelle naissance. Mais elle était aussi pour ceux qui avaient soif de vivre la prophétie du prophète Joël, qui dira, lui, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes. C'était pour ceux qui avaient soif de voir ces paroles-là s'accomplir dans leur vie. Maintenant, la question est, lorsqu'ils ont pris ce baptême, y a-t-il eu accomplissement des promesses de Dieu dans leur cœur quand ils ont pris ce baptême? Est-ce qu'il y a eu transformation de cœur? Est-ce qu'il y a eu nouvelle naissance? Est-ce qu'il y a eu une puissance qui est venue sur eux lorsqu'ils ont cru? La réponse est non. Parce que le baptême de Jean, aussi important puisse-t-il être, n'était qu'un baptême d'eau, avec un sens prophétique. Le baptême de Jean, parce qu'il est un baptême d'eau, ne peut pas être plus ce qu'il est, un baptême symbolique. Et les disciples de Jésus-Christ comprenaient ce que Jésus était en train de leur dire. Et il leur dit, Jean a baptisé d'eau, vous avez pris ce baptême, parce que vous aspiriez à voir ces paroles prophétiques s'accomplir dans vos vies. Mais lorsque vous avez pris ce baptême, votre cœur n'a pas vraiment changé. Vous n'êtes pas né de nouveau, le Saint-Esprit n'a pas soufflé sur vous. Mais je vous dis maintenant quelque chose d'autre. Je vous dis que dans peu de jours, vous serez baptisés, non plus avec de l'eau, mais avec le Saint-Esprit. Je suis en train de vous dire que dans quelques jours, ce à quoi vous avez tant aspiré va s'accomplir dans votre vie. Je suis en train de vous dire que Jean a annoncé ma venue au milieu du peuple, mais je suis en train de vous dire que par le Saint-Esprit, je ne vais pas juste habiter au milieu du peuple physiquement, mais en chacun d'entre vous pour vous transformer et continuer mon œuvre. Voilà ce qu'il est en train de dire. Dans quelques jours, vous allez vivre profondément la transformation qui est attachée à ma venue. Toutes ces paroles qui sont là, vous allez les vivre sur la terre. Ça, c'est un baptême qui a pour but de vous plonger littéralement dans la sainte présence de Dieu. Dit autrement, c'est un baptême qui a pour but de vous revêtir de la puissance de Dieu afin de vous rendre capable de vivre chaque promesse de Dieu pour votre vie sur la terre. Alors l'erreur que beaucoup de personnes font dans l'Église est que lorsqu'ils regardent la croix, la première chose qu'ils voient, et des fois la seule chose qu'ils voient, c'est la nouvelle naissance. Ils regardent la croix et disent « Alléluia, la nouvelle naissance ». Et c'est vrai. Mais lorsque moi je regarde la croix, je vois la nouvelle naissance, mais je vois aussi la puissance qui va m'aider à vivre ma nouvelle naissance. Certaines personnes voient la croix et voient un nouveau bocal, tout nouveau, avec un bouchon. Moi, quand je regarde la croix, je vois le bocal et je vois qu'il est rempli. Car c'est le but du bocal. C'est pas juste qu'il soit nouveau, il est là pour contenir quelque chose. Nous devons donc changer notre façon de voir. Parce que si la nouvelle naissance a été prophétisée dans l'Ancien Testament, le baptême du Saint-Esprit aussi a été prophétisé. Et ça fait partie du salut. Pour le dire autrement, je termine maintenant mon message. La nouvelle naissance, c'est quand Dieu délivre le pauvre pécheur du monde. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand Dieu envoie un puissant témoin dans ce monde. La nouvelle naissance, c'est sortir de quelque chose qui nous faisait du mal pour entrer dans quelque chose qui nous fait du bien. Le baptême du Saint-Esprit, c'est aller vers ce qui nous faisait du mal pour témoigner de ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez ce que je cherche à vous dire ? Le salut de Jésus-Christ n'avait pas pour but seulement de nous centrer sur nous-mêmes. Je suis né nouveau, je suis un enfant de Dieu. Oh, que c'est magnifique. Oh, quelle créature merveilleuse que je suis devenue. Alléluia. Puis certaines personnes sont stockées là-dedans. Alléluia, je suis une merveilleuse créature. Et puis c'est bien, il faut le dire. Mais il faut des fois après relever la tête et de dire, j'ai une puissance. Je vais pas garder ça pour moi. Je vais aller de l'avant et je vais communiquer ce que Dieu m'a donné. Et la vérité et que tu n'y arriveras pas vraiment si tu n'as pas la puissance de Dieu. Tu peux te dire, je vais quand même y arriver par mes propres forces. Je suis intelligent, j'ai fait des études, j'ai fait l'université, je connais beaucoup de choses. Tu n'y arriveras pas. Et ça nous met tous au même plan. Je termine avec ce dernier témoignage. Je me suis converti en l'an 1996. 20 ans, je suis né en 76. À l'âge de 20 ans. Et lorsque je me suis converti, j'avais bien sûr ce feu qui a brûlé dans mon cœur. Dieu m'a touché dans une boîte de nuit. Il est venu dans ma chambre personnellement, il m'a sauvé, il m'a délivré de certaines puissances démoniaques. C'était une conversion radicale où j'ai eu l'occasion de témoigner à mes amis, ainsi de suite. Je vivais dans une cité en Belgique, j'avais beaucoup d'amis. Et très rapidement, mon cœur va se donner à 100% pour Jésus. Et très rapidement aussi, un peu comme Jenny, on va repérer les moniteurs. Et il y avait une personne qui avait aussi cette stature de Jenny, qui repérait les bons moniteurs, je ne sais pas si j'étais un bon moniteur, mais qui avait vu en tout cas que j'avais soif de Dieu et qui m'a demandé si je voulais être aide-moniteur dans un camp. Et donc j'ai accepté de faire un camp dans un petit village qui s'appelle Ranly, en Belgique, qui n'existe plus maintenant. Et dès 1997, je vais commencer mes premiers camps d'enfants là-bas, en tant qu'aide-moniteur. Et puis Dieu va commencer à bénir et faire des belles choses au milieu des enfants. Il va m'étonner aussi, j'aurai plein d'histoires à vous raconter, mais je vous raconterai ça le mardi. Et en 1999, je me retrouve comme le moniteur principal d'un groupe, le groupe des grands. Et là, j'ai vécu quelque chose qui a vraiment marqué ma vie jusqu'à présent. Le quatrième jour du camp, je devais prêcher, parce qu'on prêchait à tour de rôle les moniteurs dans ce camp. Et le quatrième jour, on m'avait déjà repéré, on m'a demandé, va prêcher le Saint-Esprit aux enfants. Je dis, ok, déjà. Et donc, on a rassemblé les enfants, c'était une soirée spéciale. Et j'ai donc apporté ce message aux enfants sur le Saint-Esprit. J'étais assez soft. Mais à la fin du message, je chantais que Dieu voulait faire plus. Et j'ai donc exhorté chaque moniteur à prendre son groupe, d'aller dans son dortoir et de continuer la discussion à huis clos. C'est ce que j'ai fait avec mon propre groupe de 11-12 ans. Nous sommes allés dans notre dortoir et j'ai mis une couverture par terre et nous avons commencé, nous sommes assis et puis on a continué la discussion sur le Saint-Esprit. Mais dans mon cœur, j'avais tellement envie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur vie. Dans mon cœur, j'avais tellement envie qu'ils puissent être touchés, qu'ils puissent être visités par Dieu. Il avait des enfants qui vivaient des situations tellement difficiles et moi j'avais compris quelque chose, c'est que Dieu veut nous donner cette puissance pour aussi nous aider dans chaque petit problème de la vie à faire face à ces choses-là. Il y a des enfants qui vivent des situations difficiles et c'est pour ça que je crois aussi que Dieu, lorsqu'il voit leur foi, veut aussi les remplir pour les aider. Et puis j'avais faim, je dis « Seigneur, fais quelque chose dans leur vie. Viens les toucher, Seigneur. » Et à la fin, donc, je les prends par la main. Et puis je dis « On va juste prier. » Donc je prie le premier pour donner le ton. Je prie le Seigneur, je demande au Seigneur de les bénir. Et puis j'attends. Mais il n'y a personne qui prie. C'est le silence complet. Aucun enfant ouvre la bouche. Alors dans mon cœur, je crie à Dieu, « Seigneur, fais quelque chose ici. » J'aurais pu clore la réunion là. Je dis, « Seigneur, fais quelque chose dans leur vie. » Puis soudainement, il y a un des enfants du groupe qui se met à prier. « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. » Et puis il y avait son frère qui était là, d'un an plus vieux, dit « Seigneur, je demande pardon aussi d'avoir fait du mal à mon frère. » Et puis il se met à pleurer. Et puis il a un deuxième enfant qui se met donc à prier aussi. « Seigneur, je te demande aussi pardon pour mes péchés. » Et puis il se met à pleurer. Puis il a le troisième enfant qui dit « Seigneur, je te demande aussi pardon pour mes péchés. » Et puis il se met à pleurer. Puis il a le quatrième, et puis il a le cinquième, puis il a le sixième, et puis il a le septième, et puis il a le douzième. Et puis ils sont tous en train de pleurer et dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. » Et là, je me retire et je suis juste un spectateur. Au bout de 15-20 minutes, j'arrête quand même la chose et je dis « Maintenant, il est temps de brosser ses dents, mettre son pyjama et faire dodo. » Parce que je devais rejoindre les autres moniteurs pour faire la réunion du soir, comme d'habitude. Et donc, je les mets au lit. Et avant de partir, je fais une dernière prière avec eux. Et je prie de tout mon cœur. « Seigneur, merci pour cette belle soirée qu'on a vécue. » Et au moment où je pars... Au moment où je suis en train de quitter la pièce, il a ce même enfant qui a commencé à demander pardon pour ses péchés, qui se lève de son lit, qui marche jusqu'à son frère encore, qui lui impose les mains et qui lui dit « Seigneur, tu bénis mon frère, tu le bénis, je demande pardon pour lui, mais tu le bénis. » Ah, il se met à pleurer. Alors il y a un deuxième enfant qui se lève et qui va qui rejoint cet enfant sur le lit et qui commence à prier, qui commence à pleurer. Puis là le troisième, puis là le quatrième, puis là le cinquième et puis voilà que les 12 sont sur ce lit en train de dire « Seigneur, bénis-le, lui et lui et lui et lui. » Et ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de se bénir les uns les autres. Ils sont en train de crier. Et tout le camp a rendu entendait ce qui se passait. Et quand je suis en train de voir cela, d'ailleurs quand je suis sorti, on m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as fait Michel ? Qu'est-ce que t'as fait ? Tu sais que je suis responsable de ces enfants. » J'ai rien fait. Mais lorsque je suis témoin de cette scène, je veux vous partager mon cœur ce matin. Le Saint-Esprit est venu fortement sous mon cœur. Et ce fut comme un appel que Dieu déposa dans mon cœur. Et Dieu m'a montré cette scène, il m'a dit « Michel, clairement, ce que tu vois là, tu vas le voir dans la jeune génération, mais tu le verras aussi chez les plus vieux. » Et ce fut comme un appel qui fut déposé dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que Dieu veut remplir de son esprit et qu'il veut nous bénir. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Alors, ce n'est pas la seule bénédiction que Dieu nous promet, mais celle-là va nous entraîner, va nous conduire dans les autres. Celle-là va nous aider à grandir. Je crois que cette puissance n'est pas juste là pour faire des choses extraordinaires. Je crois que cette puissance n'est pas juste là pour qu'on parle en langue. Je crois que cette puissance, elle est là aussi pour notre transformation et pour qu'on puisse marcher dans l'amour. Et Dieu, ce matin, voudrait que nous puissions une fois de plus, comme l'apôtre Paul le dit aussi, soyez continuellement renouvelés du Saint-Esprit. Et je voudrais vous inviter ce matin à vous placer devant Dieu un instant et dire « Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message, peut-être que je suis fermé. » Je voudrais te dire, ne te ferme pas. Si tu as vécu des mauvaises expériences, je ne suis pas en train de te parler de mauvaises expériences, je suis en train de parler de ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce qu'on peut juste se placer devant Dieu un instant et dire « Seigneur Jésus, Je ne veux pas envisager cette année 2016 sans ta présence dans ma vie. Seigneur Jésus, par le passé, j'ai peut-être, et ça concerne peut-être certaines personnes, j'ai été blessé par certaines choses que j'ai vues. Seigneur, je demande pardon à toutes ces personnes qui m'ont blessé. Et je demande pardon, Seigneur Jésus, à toi de m'être fermé à ta présence alors que j'étais témoin de choses qui n'étaient pas de toi. Seigneur, ce matin, je ne veux pas me priver de tout ce que tu as prévu pour moi à cause de certaines choses que je pense ou que je crois ou qui m'ont blessé. Seigneur, viens guérir les cœurs. Viens toucher nos vies. Seigneur Jésus, viens maintenant nous toucher au plus profond de notre âme. Seigneur, viens dans ta douceur. Viens dans ta puissance. Viens dans ton amour. Nous toucher et nous visiter et nous remplir. Seigneur, on veut t'inviter. On veut t'inviter à prendre toute la place ce matin. Seigneur, on veut te dire qu'en 2016, on va le vivre avec toi. On va le vivre appuyé sur toi. On va le vivre, Seigneur Jésus, fondé sur la puissance de ta parole. Seigneur, on s'attend à toi. Seigneur, nous croyons qu'il y a certaines situations que nous vivons qui demandent une action puissante de ton esprit. Et nous ne voulons pas nous en priver ce matin. Et nous voulons, Seigneur Jésus, aussi te demander de nous donner cette force, cette puissance qui nous permettra de nous aimer les uns les autres comme toi, tu nous as aimés. De nous donner cette puissance qui nous permettra d'aller vers celui qui nous a fait du mal et de lui demander pardon, mon frère, ma sœur. Seigneur, aide-nous à être une église dirigée par le Saint-Esprit, qui n'est pas juste une église qui marche dans les dons spirituels, mais qui marche, comme l'apôtre Paul le dit, dans le plus grand des dons qui est l'amour. Alors merci, Saint-Esprit, de déverser abondamment, comme Romains chapitre 5 nous le dit, de déverser abondamment ton amour dans nos cœurs. Viens, Jésus.